Vous écoutez RFI, il est 21h en temps universel et à Dakar chez Idrissa Diop, 17h en Martinique chez Yannis Audouin et 23h à Vitry-sur-Seine en France. Et le journal est présenté par Jérôme Bastion.
Merci Claudicia. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Radio France Internationale et voici un nouveau point sur l'actualité de notre planète. Bienvenue. À la une de cette édition, de nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. Le fief du Hezbollah aux abords de la capitale libanaise était visé. Depuis un mois, plus de 1500 personnes sont mortes dans les bombardements de l'État hébreu au Liban. En Russie, Vladimir Poutine célèbre ses alliances avec les pays des BRICS. Les représentants des puissances émergentes sont à Kazan jusqu'à jeudi. Un sommet aux airs de pied de nez à l'Occident en plein contexte de guerre contre l'Ukraine. Et puis à la veille des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le FMI se montre plutôt optimiste dans ses prévisions de croissance, saluant les efforts dans la lutte contre l'inflation, mais avertissant contre le ralentissement en Chine, Russie et Mexique notamment. Plus de 1500 personnes tuées au Liban, donc en un mois. Nouvelle illustration de l'intensification des bombardements israéliens au Liban. Les frappes de l'État hébreu ont de nouveau ciblé ce mardi les banlieues sud de la capitale, Beyrouth. La veille déjà, ces environs de la capitale libanaise étaient ciblés. Un hôpital avait été touché. Cette attaque aurait fait au moins 18 morts et 60 blessés. Le point tout de suite des derniers événements avec Oriane Verdier.
Le ministère libanais de la Santé a fait état d'au moins 10 morts et 31 blessés, dont deux frappes israéliennes ce mardi. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a lui exigé une enquête rapide et approfondie sur la frappe près de l'hôpital Rafik Hariri dans le sud de Beyrouth. Il a rappelé que les principes fondamentaux du droit international humanitaire devaient être respectés dans l'offensive israélienne au Liban qui a déjà tué plus de 1500 personnes en un mois. L'hôpital en question est le plus grand établissement médical public du Liban. Cette frappe s'est produite dans la nuit de lundi à mardi, dans le sud de Beyrouth. Parmi les 18 morts déjà annoncés figurent 4 enfants. Les autorités libanaises décomptent également 60 blessés. Le bilan pourrait augmenter puisque des témoins sur place décrivent une journée de mardi passée à fouiller les décombres de plusieurs bâtiments en ruine. De son côté, le Hezbollah libanais a dit avoir lancé des drones sur une base militaire près de Haïfa, principale ville du nord d'Israël, et avoir détruit 7 chars israéliens à la frontière où de violents combats l'opposent à l'armée israélienne.
Oriane Verdier du service international de RFI, merci. L'armée israélienne qui a confirmé mardi soir avoir éliminé début octobre le successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, Hachem Safieddine, dans une frappe sur Beyrouth justement. Tout cela alors que le premier ministre israélien a rencontré ce mardi le chef de la diplomatie américaine. Lors de cet échange à Jérusalem, Anthony Blinken a appelé Benjamin Netanyahou à prendre des mesures supplémentaires pour permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux civils dans la bande de Gaza. Par ailleurs, les autorités irakiennes ont annoncé mardi que leurs forces de sécurité avaient tué 9 commandants du groupe État islamique, dont le plus haut responsable des djihadistes dans le pays, lors d'un raid dans une région montagneuse du nord. La Russie choisit ses alliés des BRICS plus élargis, réunis à Kazan, sur les rives de la Volga, à quelques 700 kilomètres à l'est de Moscou. Le sommet des puissances émergentes se retrouve jusqu'à jeudi prochain, histoire de montrer que le Kremlin n'est pas isolé autant que l'on le dit sur la scène internationale. C'est en tout cas, pour Vladimir Poutine, le premier grand événement international en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine il y a bientôt 3 ans. Parmi les invités figure le premier ministre indien Narendra Modi, le dirigeant indien qui n'a jamais condamné l'assaut russe contre l'Ukraine. Et devant le chef du Kremlin, ce mardi, Narendra Modi s'est contenté de plaider pour un retour rapide de la paix en Ukraine. On l'écoute.
Excellence, nous sommes en contact constant à propos du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Comme je l'ai déjà dit, nous croyons que les conflits ont vocation à être résolus uniquement pacifiquement. Nous soutenons totalement les efforts visant à rétablir rapidement la paix et la stabilité. Tous nos efforts placent l'humanité au premier plan. L'Inde est prête à offrir tout son soutien dans les temps à venir.
Narendra Modi à Kazan en Russie. Des propos sélectionnés par Nicolas Rocca. Le président chinois Xi Jinping a lui vanté la solidité des relations entre Pékin et Moscou dans un contexte international qualifié de chaotique. Fermez les guillemets. L'économie mondiale en débat à Washington cette semaine. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiennent dans la capitale américaine. À cette occasion, comme tous les ans, le Fonds monétaire international publie ses prévisions annuelles pour l'économie mondiale. La croissance s'établit à 3,2%. Il n'y a donc pas de récession au niveau du monde. Dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, l'institution s'inquiète toutefois de l'endettement de certains pays. Mais l'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gorincha, salue le succès de la lutte mondiale contre l'inflation.
Le FMI prévoit désormais une croissance de 3,6% pour la Russie, mieux que les 3,2% anticipés jusque-là. À l'heure où Vladimir Poutine réunit ses alliés des BRICS pour un sommet à Kazan, l'économie russe prouve qu'elle a su résister aux sanctions occidentales prises dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine début 2022. Une économie de guerre portée par les milliards de dollars investis par l'État russe dans le complexe militaro-industriel. Mais une économie structurellement fragile. Le FMI parie sur une forte baisse de la croissance en 2025 sur fond de très forte inflation et d'une pénurie chronique de main-d'œuvre. Concernant la Chine, le Fonds monétaire ne croit plus qu'elle tiendra son objectif d'atteindre 5% de croissance en 2024. Les récentes annonces de Pékin en soutien à son secteur immobilier en grande difficulté n'ont pas convaincu le FMI, également inquiet de la faiblesse de la consommation intérieure et du chômage des jeunes.
Explication signée Nathanaël Vitran. Vous pouvez bien sûr retrouver l'interview en intégralité de Pierre-Olivier Gorincha du FMI sur le site de RFI et dans l'émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs avec Bruno Faure. C'est ce samedi sur la Radio du Monde. Aux États-Unis, la campagne électorale est entrée dans sa dernière ligne droite pour Donald Trump et Kamala Harris. Les 15 derniers jours avant le scrutin, s'annonce très serré. Les deux candidats républicains et démocrates mettent donc les bouchées doubles. Kamala Harris était en interview ce mardi, Donald Trump avec des électeurs latinos, comme on dit, en Floride, alors que les derniers sondages donnent une très légère avance à la vice-présidente de 46 à 43% face à l'ancien président républicain. Dans ce coude à coude, ce sont finalement les résultats des petits candidats qui pourraient offrir la victoire à l'un ou à l'autre, et notamment la candidate du Parti vert, Jill Stein, qui concourt dans 6 des 7 États où va se décider le scrutin, et que les démocrates accusent de faire le jeu de Donald Trump. Explication signée François-Damien Bourgerie.
That's why I vote for Stein. It's really a vote for Trump.
Depuis le 12 octobre, les électeurs de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin peuvent voir à la télévision un clip de campagne du Parti démocrate qui les met en garde contre le vote Jill Stein. La candidate du Parti vert ne pèse pourtant qu'1% des voix à l'échelle nationale. Mais dans une élection qui se jouera dans 7 états pivots et à seulement quelques milliers de voix près, rien n'est laissé au hasard, comme l'explique Vincent Michelot, professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences Po Lyon.
Les deux candidats, ils craignent un déplacement de 20 000 ou 30 000 voix. Donc les deux sont totalement focalisés sur ces micro-segments de l'électorat qui peuvent faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre.
Avec son discours farouchement opposé à la guerre menée par Israël à Gaza et au Liban, Jill Stein séduit les électeurs musulmans qui avaient voté pour Joe Biden il y a 4 ans, et qui dénonce aujourd'hui le soutien inconditionnel apporté par Washington à l'État hébreu. Mais ce n'est pas le seul électorat susceptible de voter pour elle, explique Vincent Michelot.
C'est vers elle que sont susceptibles de se tourner des électeurs qui sont essentiellement des électeurs jeunes et plutôt ancrés très à gauche du côté démocrate.
De son côté, Donald Trump ne peut que savourer. « Jill Stein, je l'aime beaucoup », déclarait-il lors d'un meeting à Philadelphie en juin dernier. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle leur prend 100% des voix.
François-Damien Bourgerie pour le service international de RFI. Radio France Internationale, il est 23h10 à Paris.